Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Bonjour à tous, ici Pauline Aignot et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Qu'est-ce que le Gratin ? Eh bien, ce sont des conversations avec des personnalités qui sont parmi les meilleures au monde dans leur domaine, que ce soit en pâtisserie, karaté, kickboxing, neurosciences, médecine, management, cyclisme, running. J'ai aussi eu des CEO de boîtes du CAC 40 ou des fondateurs de start-up. Et au final, j'interviewe des personnalités qui ont un parcours exceptionnel pour comprendre leur cheminement et ce qui a fait la différence pour eux. Mon but, c'est de vous aider via ces mentors virtuels dans votre développement personnel et professionnel à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Natasha Birds. Vous pourrez la retrouver sur Instagram d'abord, où elle est très active, à son nom Natasha Birds, via YouTube également ou sur son blog directement www.natasha-birds.fr. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Natasha, qui est-elle ? Elle se décrit elle-même comme une raconteuse de petites histoires en images, photographe, vidéaste, blogueuse, influenceuse, artiste, poète, mais aussi modèle. Comme de nombreux artistes, Natasha touche à tout et ne veut pas réduire son inspiration à un médium spécifique. Le seul invariant entre ses diverses activités, l'amour du beau et la volonté, ou plutôt la nécessité impérieuse d'en distiller dans nos quotidiens. Avec Natasha, nous avons donc d'abord parlé de son amour de l'art, de ses premières découvertes visuelles dans son enfance et de ce qui avait forgé son imagination si fertile. Nous avons également abordé l'histoire de sa carrière d'influence, pourquoi et comment elle s'était lancée durant sa grossesse en l'occurrence et ce qui avait fait la différence pour elle. Travaillant depuis des années avec des marques, Natasha nous livre d'ailleurs à cette occasion de très nombreux et précieux conseils pour réussir une collaboration avec une influenceuse ou un influenceur. Typiquement, quelle liberté lui laisser, quels moyens lui donner, qu'il faut pas éviter. Une discussion qui, je suis sûre, sera très utile à tous ceux qui se posent des questions sur ce métier encore mystérieux pour beaucoup. Enfin, Natasha m'a aussi raconté son processus créatif, de la nécessité pour elle de s'isoler afin de créer et de la décision de quitter Paris puis Barcelone pour trouver son havre de paix. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Natasha Birds. Salut Natasha et bienvenue sur le Gratin.
Merci beaucoup, merci de me recevoir ici, je suis très contente d'être là.
Écoute, on a mis du temps à le caler parce que je sais que tu es peu à Paris et du coup c'est vraiment un privilège, donc je suis très très contente de t'avoir ici avec moi. Natasha, si ça te va, j'ai réfléchi à la première question que je voulais te poser et en fait ce qui m'intéresse c'est vraiment ton amour de l'art, si tu veux, tout ce qui est autour de l'esthétique, qui est quelque chose, j'ai l'impression, qui te plaît énormément. Et du coup, je voulais te demander, si on revient, mais au tout début, au tout commencement, est-ce que tu pourrais te rappeler de ta première vraie grande émotion liée à l'art ? Est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué, quelque chose, une œuvre peut-être, quelque chose qui a été très fort pour toi et qui t'a marqué et qui t'a fait un peu tomber amoureux justement de l'art, tout simplement ?
Alors, c'est pas une œuvre en particulier, mais je me rappelle d'un livre qui appartenait à l'ami de ma grand-mère. On était partis manger chez elle et je devais avoir 7-8 ans, je pense. Je m'ennuyais fermement pendant ce repas de grand-mère. Je suis partie dans la chambre de l'ami de ma mamie qui s'appelle Marcel et je me rappellerai, je pense toujours de cette femme juste à cause de ce livre. Et en fait, elle avait une espèce d'énorme encyclopédie regroupant plein de plantes, plein d'animaux, et j'étais tombée dessus et j'étais tombée amoureuse de photos de méduses. Et en fait, à cette époque-là, j'avais un cahier dans lequel je m'amusais à découper tout ce que je trouvais beau et je le collais dans ce cahier. C'était un genre de Pinterest
avant l'heure.
Avant l'heure. Et dès que je voyais un truc beau, j'avais pas d'autre possibilité que de le découper, de le coller dedans. C'était vraiment ma collection de belles images. Et donc, j'avais décidé de découper cette magnifique encyclopédie qui devait coûter quand même un peu d'argent.
Oui, elle a dû être...
Bon, elle a été très gentille, ouais. Elle a été très cool. Je suis repartie avec l'encyclopédie un peu découpée, mais je me rappelle en fait de cette image de cette méduse dans des eaux un peu violacées. Et je me souviens en fait... Alors, il y a peut-être eu d'autres émotions avant cet épisode-là, mais je me rappelle de ce cahier, en tout cas, qui était rempli, et je regrette de ne pas avoir gardé ce cahier, parce que je pense que même aujourd'hui, certaines images arriveraient à me faire un petit quelque chose. Mais cet épisode de la petite méduse découpée, pour moi, c'était comme un de mes premiers coups de cœur, en fait, sur... C'était pas tant la méduse, tu sais, c'était plus l'association des couleurs, le mouvement dans l'eau, ça avait quelque chose qui ressemblait presque à un nuage de très aérien et ça m'avait énormément touchée. Donc c'est peut-être pas une œuvre, mais ce petit cahier et cette image-là, c'est, je pense, le début de quelque chose qui m'a fait dire que j'avais le droit en fait d'être touchée par juste une couleur ou juste une photo parmi tant d'autres.
Oui, par du beau.
Oui, exactement.
Tu as souvent dit que l'art, c'était vraiment, alors peut-être pas ta raison de vivre, mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose de très, très important dans ta vie. Et je trouve ça hyper intéressant parce que pour beaucoup de personnes, l'art, c'est un peu nice to have. C'est, voilà, c'est un complément, c'est un moment qu'on peut passer dans un musée, etc. Et pour toi, j'ai l'impression que c'est vraiment autre chose, que c'est quelque chose de très personnel, quelque chose qui te touche. Et je sais que c'est difficile comme question, mais je voulais te demander... Si tu arrives à exprimer avec des mots, peut-être avec des émotions, qu'est-ce que justement l'art, le beau, t'apporte dans ta vie? Qu'est-ce que ça te fait ressentir, voilà, peut-être en termes d'émotions?
Alors l'art ou le beau, c'est pas quelque chose que je me force à trouver ou à chercher. Je cherche pas forcément l'art comme on irait dans un musée pour s'imprégner du beau ou de l'art. C'est quelque chose que... J'ai presque envie de dire que je vois un peu malgré moi et que je vois un peu dans tout. Donc en fait, il fait partie de ma vie, même si j'en voudrais pas. En fait, c'est là et j'ai beaucoup de mal à expliquer aux gens ce que ça représente pour moi, parce que c'est juste quelque chose qui est ancré et qui est présent et que j'arriverais même pas à sortir de ma vie si j'avais envie de le sortir de ma vie. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont un petit peu comme ça, qui sont esthètes, ouais. et qui juste aiment le beau et ont besoin du beau pour peut-être embellir aussi leur vie. Moi, j'ai du mal, en fait, à m'imaginer une vie sans création. J'ai l'impression que c'est quelque chose de triste, alors que je connais plein de personnes qui ne créent pas et qui sont des personnes très heureuses. Mais pour moi, c'est un peu comme manger ou boire. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui me satisfait et dont j'ai besoin. Et que si jamais l'art me manque, et ça va être un peu comme quelqu'un qui a faim. Je vais pas être de bonne humeur. Moi, les moments de page blanche où je suis complètement démotivée, où j'ai pas trop d'inspiration, c'est, je pense, des moments où je suis très dure à vivre. Ouais. Je peux rester dans mon lit à pleurer parce que l'art qui me fait du bien, en fait, qui fait que je me sens moi et que je me sens heureuse. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que j'arrive pas à retirer et que je ne veux pas retirer, mais surtout que j'ai du mal à expliquer. C'est juste là.
Non, mais c'est un besoin. C'est rigolo parce que j'ai fait il y a pas très longtemps un test qui s'appelle le test VIA, qui est un peu un test de personnalité et qui te dit qu'est-ce que tu aimes dans la vie, etc. D'accord. Et ça peut être tu as une personnalité où tu adores l'espérance, tu aimes, je sais pas, les challenges. Mmh. Et en fait, il y avait une des caractéristiques qui est l'amour du beau. Et ce qu'ils expliquent, c'est qu'il y a des personnes, et c'est pas le cas pour tout le monde, qui vraiment ont une... C'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire en fait une conscience du beau qui les entoure et en fait ils peuvent marcher dans la rue et ça peut être une émotion de voir, je sais pas, juste un bâtiment qui est un peu plus beau qui ressort et en fait c'est juste des personnalités quoi.
Ouais,
et
je trouve que c'est exactement ça et c'est des choses certaines autres personnes pourraient croire qu'on se force en fait à trouver des choses belles dans ce que eux voient, alors que moi, j'ai la sensation que c'est des choses qu'on voit malgré nous et qu'on observe malgré nous. Et il y a peut-être un petit côté un peu optimiste et un peu idéaliste. Mais Ouais, je pense que c'est quelque chose où on est un petit peu avec, exactement.
Je voulais te parler de processus créatif. Tu disais justement que parfois même toi, tu as le syndrome de la page blanche ou en tout cas, t'es pas bien parce que justement, t'arrives pas à créer. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que chacun a vraiment une manière très différente de réussir à trouver l'inspiration et de créer et de produire. Pour certains, c'est des processus assez solitaires. J'ai eu par exemple sur le podcast Laure de Sagazan, tu sais, qui fait des robes de mariée et qui me disait qu'elle, elle est obligée de s'enfermer dans une maison même complètement isolée pendant, je crois, une ou deux semaines pour réussir à sortir un peu dans la douleur, tu vois, quelque chose. Mmh. Et je voulais te demander, toi, alors qui crée quand même énormément et puis un peu, j'ai l'impression, on continue, est-ce que tu pourrais m'expliquer concrètement, voilà, si tu as des méthodes, des principes, enfin, je veux pas que ça paraisse trop dans la production, mais concrètement, est-ce que tu es plutôt du type solitaire justement et tu es obligé d'être seul avec toi-même? Est-ce qu'à l'inverse, tu es plutôt, tu as besoin de l'entourage des autres justement pour te nourrir de ça? Comment en fait est-ce que tu réfléchis à ça?
Alors, je rejoins assez Laure, je suis très solitaire. Après, je travaille avec mon mari, donc je suis solitaire sans l'être parce qu'on est toujours à deux et je suis jamais toute seule dans le processus créatif. Mais en fait, j'ai ce besoin de me retrouver toute seule, de m'enfermer, de m'isoler et de me couper un petit peu de tout ce qui pourrait se passer autour de moi et qui pourrait venir contredire ce que j'ai au fond de moi. Par exemple, le fait d'être trop souvent à Paris, trop souvent sollicitée, de voir trop de monde ou d'avoir un média en boucle comme la télé, je le perçois des moments un peu comme une agression. Mmh. Et en fait, j'ai l'impression que les médias arrivent à dicter ce que je serais censée trouver beau, ce que je serais censée aimer, et ça me perd un peu. En fait, je suis quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut, qui sait exactement ce qu'elle aime depuis, je pense, toujours, mais qui, en même temps, est vite tourmentée par les autres. Et du coup, j'ai besoin, en fait, de m'éloigner de entre guillemets, cette pollution qui me tourmente un petit peu. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de pas vivre à Paris et d'être loin. Et ça me permet de m'enfermer dans ma création, de moins regarder ce que font les autres aussi, parce que c'est quelque chose qui peut être dur à vivre quand on n'est pas très sûr de soi. Et le fait, ouais, d'être un peu dépollué de tout ce qui peut être sonore et visuel, qui peut venir changer la perception d'un projet. Ou je sais qu'on dit assez souvent qu'il faut sortir de sa zone de confort, que c'est une manière de trouver l'inspiration. Et moi, j'ai la sensation que c'est dans ma zone de confort que je trouve mon inspiration, et que plus je reste dans ma zone de confort et plus je remonte dans tout ce qui a pu m'inspirer par le passé, tout ce qui m'inspire depuis toujours, et plus je creuse cette zone de confort et plus je viens la complémenter de nouvelles choses que je vois, et plus je suis à l'aise avec ce que je propose et plus je ressens que c'est moi et que je suis OK avec ce que je vais montrer et que je suis à l'aise, et plus je vais sortir de ma zone de confort et plus je vais me dire J'ai un gros problème d'identité. J'ai besoin que tout soit harmonieux, que tout aille bien avec tout, que tout soit cohérent. Je suis vraiment voilà, c'est limite trop.
C'est rigolo parce que je me suis amusée à remonter ton feed assez loin, mais qui en plus, je dois dire, je sais pas quand t'as créé ton compte Instagram, mais c'était il y a un moment quand
même.
Et la cohérence est dingue.
Mais dingue. C'est presque maladif à des moments, parce qu'il faut que mon feed corresponde à mes vidéos que je peux faire sur YouTube. Il faut que tout doit correspondre jusqu'à ma bio Insta. Enfin, en plus, je sais que les personnes ne voient pas que c'est autant réfléchi et que ça sert peut-être à rien. Mais moi, j'en ai besoin parce que c'est ma ligne, en fait. C'est ma ligne édito et j'ai besoin d'avoir ce fil rouge. Ça me permet de pas me perdre, ça me permet de savoir qui je suis. Et par exemple, la couleur violette, pendant longtemps, ça a été mon fil rouge, et tout le monde me disait, mais tu crois pas que tu t'enfermes, en fait, parce que du coup, ça veut dire que tu t'autorises pas à montrer quelque chose qui est peut-être vert. Et non, en fait, à l'inverse, ça me force à encore plus regarder qu'est-ce qui est violet et à fouiner et à me dire, mais tiens, le rose, ça match hyper bien. Et en fait, non, c'est quelque chose qui m'aide, enfin, l'harmonie de tout ce que je peux montrer, c'est quelque chose qui m'aide, en fait, à être totalement en phase avec moi. Et quand je sors de ma zone de confort, il y a des nouveaux éléments qui rentrent. Et dès qu'un nouvel élément rentre, c'est comme un petit écosystème qui se casse la figure et où je remets tout en question. Donc, je suis plus du genre à m'enfermer chez moi, donc pas forcément à être toute seule et ne parler à plus personne, mais j'ai besoin d'être chez moi, d'être accompagnée avec de mon mari avec qui je travaille. On travaille aussi avec une autre personne. Donc, voilà, j'ai besoin de notre trio, en tout cas, pour trouver le nouveau rebondissement et couper avec tout ce qui peut être extérieur et qui pourrait peut-être me faire changer de chemin, quoi.
Je trouve ça hyper intéressant, finalement, cette discipline, en plus de se dire que... Parce qu'il y a quand même une forme de facilité aussi à aller chercher l'inspiration
Bien
à
sûr.
L'extérieur en permanence. Parce que finalement, tu vois, tu te dis, bon, bah, je vais apporter de la nouveauté. C'est inspirant, ça va être dans l'air du temps. Mais aller en permanence rechercher en soi-même des nouvelles choses, la réinterpréter, je trouve ça assez, je trouve ça assez fort. Parce que finalement, c'est quand même une sacrée discipline, je pense, intellectuelle, tu vois, de se dire, voilà, je suis droit dans mes bottes et je continue sur ma ligne éditoriale. Et je pense qu'il y a peu, alors, notamment sur les réseaux sociaux, mais... Voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est évident à comprendre, j'imagine, quand on n'est pas artiste. Mais je trouve ça hyper intéressant. Et je sais que dans le secteur de la littérature que je connais mieux, c'est aussi quelque chose, si tu veux, qui arrive assez fréquemment, en fait, de se dire, ben non, je vais pas aller puiser mon inspiration en permanence d'extérieur. Ça veut pas dire que je peux pas regarder ce qui se passe, etc., et comprendre et ressentir des choses. Mais à l'inverse, je reste très centrée, en fait, sur mon histoire. Voilà. Il y a eu des fois, quand même, où, vraiment, t'arrivais plus à créer. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui écoutent le podcast qui sont des illustrateurs, des personnes qui travaillent aussi, qui sont vraiment dans un domaine artistique et qui m'envoient parfois des messages pour me dire mais comment faire justement face au syndrome de la page blanche quand on a l'impression d'être un peu vidé, épuisé, on est fatigué parce qu'en plus on a sa boîte à gérer en même temps.
Sûr.
Enfin, tu vois, une énergie parfois négative extérieure. Est-ce que c'est des choses qui te sont arrivées et si oui, comment est-ce que tu t'en es sortie?
J'ai pas la sensation d'avoir vraiment la page blanche créative dans l'idée où c'est moi qui n'arrive plus à créer, mais je sais que aujourd'hui il y a des notes sur les réseaux sociaux notamment, et moi ça fait partie de mon métier d'être notée, alors c'est pas très joli à dire comme ça, mais ces retours des personnes, ces notes, si elles sont pas présentes, des fois ça peut être hyper déstabilisant, et même si nous on est content de notre travail, ou du moins on le trouve assez bien pour le présenter, si les retours ne sont pas là, on peut se demander, est-ce que c'est moi, est-ce que je fais un truc qui ne plaît plus, comment je rebondis? Et moi c'est plus ça en fait qui va me remettre en question, alors que sans cette idée de notation, je pense que tout irait bien dans le meilleur des mondes, mais je pense que je suis pas quelqu'un d'hyper sûr en elle, et du coup mine de rien, ces retours et cette note, c'est quelque chose d'un peu valorisant, qui te flatte un peu, et surtout qui te pousse à faire mieux, qui te dit ok, ils sont là, ils te regardent, ils approuvent quelque part. Et les seuls moments où ça arrivait, c'était moi les pires moments, c'est l'été où
oui, y a personne.
Les gens ils ont raison d'être en vacances et de profiter de leur famille, mais moi je sais pas dire pendant 2 mois tant pis, je vais rien faire parce que je vais devenir dingo, je pense, au bout de 2 semaines. Ouais. Donc je continue, mais je sens bien que les gens ils sont à la plage, quoi. Et c'est très bien et c'est génial, mais c'est un peu le problème peut-être des réseaux sociaux, d'attendre une validation. Et c'est vrai que les mois d'été, il y a souvent où j'ai des petits moments de j'espère que c'est vraiment que le mois d'été et que c'est pas moi, et c'est plus ça. Mais j'ai pas de moment moi toute seule où j'ai plus envie de créer, où j'ai pas d'idée. Et tu vois, pour rebondir sur ce qu'on disait avant, en fait, nos univers, ils sont tellement grands à chacun de nous, que je me dis, on peut pas être essoufflé de tout ça. Et il y a tellement de nouvelles choses qu'on peut prendre et qu'on peut intégrer dans son univers. Parce que l'idée aussi, c'est ça, c'est pas de s'isoler complètement. Il y a des choses hyper chouettes à prendre et à mettre dans notre contexte à nous et à remanier.
Bien sûr.
Que du coup, non, j'ai pas cette sensation de m'essouffler, mais c'est plus le regard des autres, je pense, qui peut des fois me déstabiliser et me dire mince, j'intéresse peut-être plus.
Et puis surtout, ce qui est pas évident, c'est que t'es quand même, alors j'ai pas envie de dire un ovni sur le monde des réseaux sociaux, mais t'es quand même un peu à part, parce que par rapport à beaucoup d'influenceuses, même si le terme est pas forcément le bon pour toi, mais je veux dire, t'as une communauté, mais en même temps, t'as un style quand même qui est très marqué, t'es plus dans une dimension quand même esthétique et artistique que juste parler de ta personne et de ce que tu fais. Et du coup, ça, c'est quand même une mise à nu qui est assez forte. Et puis surtout, voilà, quand tu crées quelque chose, tu produis quelque chose, le montrer au public et attendre cette validation, je peux imaginer que c'est hyper dur émotionnellement quand t'as pas le retour
escompté. Oui, c'est exactement ça.
Mais du coup, ça, c'est quelque chose, tu disais, où t'essayes de pas trop regarder, c'est... Concrètement, en fait, aujourd'hui, tu te sens quand même obligé de regarder les commentaires et t'arrives pas tellement à faire la part des choses si jamais, par exemple, t'as des commentaires négatifs parce que c'est un vrai sujet. Et toi, t'as beaucoup de followers, mais même quelqu'un, tu vois, qui a, je sais pas, 1000 followers et qui commence à avoir sa communauté, s'il y a un commentaire négatif, c'est vrai que c'est très, très difficile de pas le prendre personnellement, je trouve. Et j'imagine que malheureusement, t'as l'habitude d'avoir aussi, comme on a de très bons commentaires, des commentaires parfois... juste un peu déçu ou je sais pas. Comment est-ce que tu arrives à gérer justement ce genre de moments difficiles ?
Alors écoute, je pense que j'ai une communauté très bienveillante. J'ai que très 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 rarement de commentaires négatifs et si j'en ai, ça fait vraiment bien longtemps que j'ai pas eu de commentaires un peu virulents. On fait hyper attention par rapport à nos collaborations, que ça nous ressemble. On prend toujours très à cœur les boulots qu'on peut faire avec les marques. Enfin, c'est quelque chose sur lequel on fait vraiment très attention parce que justement, on y mêle... pour moi, c'est pas un placement de produit, en fait. On y mêle... Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient profondément à cœur et c'est quelque chose... ce que je montre, c'est quelque chose qui m'appartient et j'ai pas du tout envie... de me vendre ou de mentir donc du coup on choisit vraiment très bien tout ça et on a que très très rarement des mauvais commentaires, donc je suis pas vraiment confrontée à ça, mais on a fait le choix sur les réseaux sociaux d'avoir un univers qui est quand même assez clivant, qui va pas parler à tout le monde et je le comprends. Je le comprends énormément. On est un peu entre, en effet, l'influenceuse et l'artiste. J'ai un peu, voilà, je suis un peu entre les deux. J'ai un univers qui est quand même très poudré, très girly entre guillemets. Donc, je comprends aussi que ça parle pas à tout le monde. Donc, c'était un choix après hein, de notre part d'assumer ça et de se dire, il y aura sans doute moins de commentaires ou de likes que si je montrais, je sais pas, ma vie avec mes enfants. Ouais. Voilà, c'était un choix parce que moi, je suis plus à l'aise dans ce rôle-là et que je n'ai pas du tout envie de m'épuiser dans un rôle qui n'est pas le mien. Du coup, on essaye de se dire à des moments... c'est surtout mon mari qui essaye de me dire ça, mais arrête de te comparer, en fait, avec des personnes... contre lesquels tu ne peux pas te comparer parce qu'en réalité, vous avez deux métiers qui sont complètement différents. Et si certains clients ou marques ont du mal à le comprendre...
C'est ça, parce qu'ils te mettent dans une case.
Que t'es pas influenceuse. Exactement. Des fois, on me dit « Oui, mais t'es youtubeuse, mais tu fais moins de likes qu'un tel. » Alors, on est obligé de dire « Non, stop. Moi, je suis pas youtubeuse. » En effet, et j'ai aucune... Enfin, il y aurait aucune honte à dire que je suis youtubeuse. Mais c'est juste que j'utilise la plateforme de YouTube. Mais à des moments, je vais mettre une photo, une vidéo tous les trois mois. D'autres fois, ça va arriver deux fois dans la semaine. En fait, c'est plus une plateforme qui me sert à héberger mes vidéos. Mais voilà, juste des fois me dire que c'est peut-être pas sain pour moi de me comparer à des filles avec lesquelles on n'a pas du tout le même métier. Et c'est normal qu'elles aient une communauté qui soit plus réactive parce qu'elles ont une proximité très différente. Elles ont une expertise beauté que je n'ai pas et que je ne saurais pas avoir. Enfin voilà, c'est vraiment sans dénigrer l'un ou l'autre, c'est vraiment juste deux métiers complètement différents. Donc ça, j'essaye des fois de me le rappeler. Et de me dire que si la marque en face n'est pas apte à comprendre ça, c'est qu'elle s'est peut-être trompée dans le casting et que je suis pas la bonne personne. Et du coup, ça a résolu un peu le tout.
Pour moi,
quoi.
Ça a du problème. Mais du coup, t'évites de suivre certaines personnes avec lesquelles tu sens que t'as un peu un problème de comparaison, entre guillemets.
Non, pas du tout.
Quand même pas.
Non, pas du tout. Je suis hyper admirative, moi, de ces filles qui arrivent, tu vois, à parler comme ça devant la caméra, à être super à l'aise. J'aurais adoré, en fait. Mais...
C'est
pas du tout moi, je suis pas du tout à l'aise, j'ai l'air je re-regarde après la vidéo, je me dis mais qu'est-ce que t'as l'air
ouais, bah, niaise en plus, devant t'es ta esthète, caméra. J'imagine que toi tout t'as aucun
Ah oui, puis moi oui, et encore plus quand c'est moi, du coup le moindre petit détail, faut que tout soit chiadé, tout soit donc ça c'est pas tellement compatible avec ce côté très naturel. Voilà, moi c'est pas quelque chose que je sais faire. Donc, c'est une petite bataille, mais tout doucement, on trouve notre place et je suis un peu moins dure avec moi sur ça.
Et justement, le fait d'être quand même face caméra assez régulièrement, ça, c'est quelque chose qui a été... qui est arrivé graduellement, ça a été un combat pour toi, parce que, alors, je dirais pas que t'as une personnalité introvertie, on se connaît pas suffisamment, mais je pense que t'as l'air de dire que quand même t'aimes plutôt être un peu dans la solitude, quand même, ou en tout cas entouré de peu de personnes, etc. Et donc, j'imagine que se mettre, s'exposer comme ça face au plus grand nombre et un peu se mettre en scène, c'est pas facile non plus quand on a ce type de personnalité. Est-ce que tu pourrais me dire, alors, comment c'est arrivé? On va parler du coup un peu du début aussi du blog, mais est-ce que, voilà, émotionnellement, pour toi, ça reste encore aujourd'hui pas évident de te mettre en avant comme ça?
Ouais, ça a été très dur. En fait, ouais, le blog, moi, je l'ai commencé, je me montrais pas du tout. Et puis, tout doucement, on commence par une photo, une deuxième, une troisième. Et les photos, en fait, ça va parce que on sait très bien que sur une photo montrée, il y en a peut-être eu 20 prises, que évidemment on choisit la photo sur laquelle on se trouve la plus jolie naturellement, et que c'est quelque chose qu'on peut encore contrôler. Voilà, s'il y a le bouton horrible, on peut le retoucher. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui se contrôle. La vidéo, c'est différent en fait. La vidéo, c'est quelque chose qui est en mouvement, donc on sait que il va y avoir plusieurs profils qui vont être pris, qu'il va y avoir, je sais pas, des arrêts sur image pas très flatteurs. Enfin, la vidéo, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc j'ai commencé par faire de la face caméra un peu pour suivre les collègues youtubeuses que j'enviais d'arriver à être aussi naturelle, et parce que je l'ai regardée et que je me disais, mais si, je suis capable.
Ouais.
Et il y a eu un tas de vidéos qui ne sont jamais sorties et que j'ai effacées parce qu'arrivée devant l'écran, je me suis dit, mais c'est horrible, quoi. En fait, tu te vois, c'est très dur.
Hein.
C'est très, très dur de se voir. Ouais, c'est très dur de se voir comme ça. Et je suis quelqu'un qui contrôle énormément son image. J'ai aucun lâcher prise sur ça. J'ai beaucoup de mal à montrer mes émotions. Donc, du coup, quand je me voyais, je me disais, en fait, je suis pas assez sûre de moi pour accepter que quelqu'un d'autre me voit comme ça. Il y a un lâcher prise qui était trop énorme pour moi. Et c'est comme ça. Et c'est ce qui est chouette, c'est que dans tous les choix qu'on a fait, le plus souvent, c'est nos faiblesses qui ont transformé les choses en force. Et c'est comme ça qu'on a investi dans une caméra tout autre différente et qu'on s'est dit qu'on allait faire de la vidéo, mais que j'allais pas parler parce que c'est au moment où j'ouvrais la bouche où je... Oh. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle est niaise, c'est pas possible. Du coup, on s'est dit qu'on allait filmer et mettre de la voix off, parce que j'avais pas trop de soucis avec ma voix et que...
Au début que t'as une très belle voix, je trouve.
Merci beaucoup. Et du coup, on a investi dans cette caméra qui faisait du slow motion, donc on s'est dit, mais le ralenti en plus, c'est magnifique,
c'est
arrive à saisir des choses... que même à l'œil nu, on peut pas saisir. Enfin, ça nous ouvrait une nouvelle voie et une nouvelle inspiration. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé la vidéo le plus souvent en slow motion, mais pas que, et avec de la voix off, et où je me suis trouvée sur YouTube. Alors encore une fois, c'est pas ce qui est attendu sur YouTube. C'est encore très clivant, donc forcément, ça répond pas à la demande qu'il y a sur YouTube. Mais moi, c'est dans ça que je me suis retrouvée et dans ça que je suis à l'aise et où je me vois devant l'écran et où j'ai pas, tu vois, un espèce de frisson de mais qu'est-ce qu'elle fait, qui est cette personne. Donc je suis hyper à l'aise avec ce format-là. Je tente des fois des face caméra, mais c'est pas évident. Mais tu vois, en story sur Insta, je fais pas de face caméra et je suis pas à l'aise avec ça. Et je me dis qu'on a le droit de décider de pas être à l'aise et de pas le faire.
Mais je trouve ça hyper intéressant parce que une fois de plus, je pense beaucoup aux auditeurs et très souvent les auditeurs disent oui, je suis en train de créer ma boîte ou etc. Et je veux essayer de la mettre en avant. Et on sait bien que se mettre en avant, soit ça crée plus d'intimité avec le public et donc c'est un bon moyen aussi de communiquer et de faire passer ses messages et ses valeurs. Et donc je trouve ça intéressant que tu me dises que en fait c'est possible d'être sur les réseaux sociaux, tu vois, et de montrer son travail sans pour autant temps déjà se dénaturer son propos et puis deuxièmement en étant tu vois se mettre en avant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas à l'aise à l'idée de parler en public face caméra comme tu dis et d'être hyper extraverti. Enfin, c'est pas la personnalité de tout le monde et tant mieux tu vois si on peut faire différemment. Donc je trouve que c'est un bon message d'espoir pour les personnes qui se posent la question. Si on revient justement au début du blog, je veux bien que tu me redises, je sais que tu as déjà raconté de nombreuses fois, mais concrètement, comment tu t'es lancée dans cette aventure parce que finalement, tu étais quand même vraiment l'une des premières blogueuses en France. Ouais. Et à l'époque, c'était pas un métier, je pense qu'on peut le dire. C'était vraiment très rare de gagner sa vie avec un blog. Donc, je voulais comprendre en fait qu'est-ce qui t'est passé par la tête et pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là et comment est-ce que c'est arrivé finalement.
Alors, le blog, je l'ai ouvert il y a 8 ans. Donc c'est vrai que c'était ça arrivait en France, mais il y avait surtout Betty, Alix, enfin les toutes premières. Et alors moi j'ai pas commencé par suivre. Je suivais Betty, mais je suivais pas tant de blog mode que ça. J'étais pas une grande lectrice et en fait je suis tombée enceinte de mon tout premier petit garçon. J'étais plutôt jeune et c'était plutôt imprévu et j'ai été très vite arrêtée en fait. Donc je me suis retrouvée à la maison avec cette grossesse un peu angoissante parce que j'avais 23 ans, que c'était une grossesse que j'ai apprise très tard. Donc, j'étais déjà à 5 mois quand nous avons découvert ça. Donc, c'était évidemment un bouleversement et un changement assez énorme dans notre vie.
Tout d'un coup, tu changes de vie complètement.
C'était assez... il fallait qu'on encaisse tout ça. Et du coup, j'étais alitée... parce qu'on avait vécu comme des personnes
de 23 ans.
qui n'allaient pas devenir parents, donc j'avais fait du scooter. Ouais. Donc j'ai été arrêtée et en fait je m'ennuyais déjà assez fermement parce que j'avais pas tellement le droit de bouger et en plus de ça j'angoissais de ce qui allait arriver. J'ai commencé en fait à découvrir comme ça les blogs de maternité avec des récits d'accouchement et c'était quelque chose en fait qui me faisait du bien à lire. Je me disais que si elles y arrivaient, je pourrais y arriver et de lire toutes les configurations possibles de comment pouvait se passer un accouchement, ça me rassurait aussi. Je me disais bon bah voilà, il peut arriver ça, il peut voilà comment elle a rebondi. Voilà, ça me confortait, ça me rassurait. Puis voir ces mamans enceintes qui donnaient naissance, je les suivais un petit peu. Et à ce moment-là, moi, j'avais déjà un espèce de blog, mais c'était plus pour sauvegarder mes illustrations qu'autre chose. Donc, je l'ai repris à ce moment-là et je montrais la préparation plus de la chambre de mon fils. Donc, je construisais, c'était ignoble, c'était pas beau du tout, mais ça m'occupait et j'étais toujours dans ce même truc de j'ai besoin de créer, mais créer quand on est allongé,
C'est pas évident.
Il y a pas mille choses à faire, donc Internet peut sauver à ce moment-là. Et j'avais besoin de m'occuper, j'avais besoin de canaliser tout ça quelque part. Et du coup, j'ai lancé ce blog. Et au début, c'était vraiment purement de la décoration. J'avais montré les faire-part, enfin, des choses comme ça. Et en fait, je suis vite rentrée dedans. Ça m'a vite plu. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup créer énormément tout le temps. Et là, le fait de voir tous ces articles... J'ai toujours ce truc de collection, en fait. J'ai besoin d'entasser les choses. C'est horrible. Et dans le blog, il y a ça, en fait.
Heureusement que t'habites pas à Paris, du coup.
C'est ça. Mais du coup, dans le blog, il y a cet esprit-là de on entasse les articles et les photos et les mots et ça fait des espèces de collection 2.0 et c'était quelque chose qui me plaisait et c'était un peu des challenges et c'était de la production et ça me plaisait énormément. Donc j'ai continué, j'ai repris mon poste. Et j'ai un peu plus mêlé ma vie à mes dessins. J'ai ouvert une petite boutique à côté avec mes illustrations. Et en fait, c'est la boutique qui a plus pris que
donc
le blog.
Donc, tu vendais tes illustrations dans cette boutique.
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Et on proposait des avatars pour les blogueuses. Donc, je crois que j'ai un avatar, ça
faisait
une petite pub. Et en fait, c'est comme ça que ça a pris tout doucement.
C'est incroyable, d'accord, je ne savais pas.
Ouais, c'est dans l'autre sens, en fait, que ça a marché. Et quand j'ai vu que ça commençait vraiment à marcher, moi, j'ai décidé du coup de quitter mon poste de webmaster.
Tu étais webmaster, d'accord, avant. Donc, tu connaissais quand même bien le secteur du web et du digital.
Ouais, j'avais fait une école d'art avant. J'étais en agence de comme avant. Donc, je connaissais un petit peu le milieu, mais j'étais webmaster pour des courtiers en ligne. Donc, c'était un monde très masculin, pas très très sexy en termes de création. Donc, c'était j'ai eu des patrons très bienveillants qui m'ont poussée presque à partir, qui m'ont toujours soutenue et qui me disaient qu'ils voyaient en moi quelque chose d'autre et que j'avais raison de tenter le truc. Mmh. Donc, ils m'ont vraiment confortée dans cette idée, mais je m'éteignais un petit peu parce que créativement ça me ressemblait pas et j'ai vite senti qu'il fallait que je sois à mon compte. Et
t'as eu peur à ce moment-là de sauter dans l'inconnu, de devenir indépendante, parce que mine de rien t'avais un job, t'aurais pu te dire que je continue à avoir un job alimentaire, tu vois, et puis ok, ça me plaît pas trop, mais au moins j'ai mon activité à côté.
Ouais, j'ai eu peur, surtout parce que j'étais maman.
Et
que maintenant, j'avais un petit garçon. Et on a moins le droit de se planter quand il y a un enfant. Enfin, on a une responsabilité tout autre. Mais j'ai pas eu peur parce que j'avais deux patrons qui m'ont laissé partir avec une rupture conventionnelle dans l'idée de m'aider. Donc, je savais que si jamais ça marchait pas, j'avais pas rien. J'avais travaillé 4 ans CDI avant. Mmh. Mon mari me soutenait, il avait un CDI. J'avais mes parents derrière moi, pareil, qui m'ont...
Oui, t'étais très soutenue.
C'est même eux
quand
qui m'ont dit, mais pars, quoi, qu'est-ce t'attends, pars. Donc, j'étais tellement entourée et soutenue dans tout ça. Les personnes autour de moi croyaient plus que moi à tout ça, que je suis partie très sereine et hyper libérée. Hyper libérée, et ça me permettait aussi de voir mon petit garçon plus souvent. Donc, ouais.
Et donc, le blog et Instagram se développent énormément. Et je crois savoir donc que tu t'associes, alors le terme est peut-être... Mais en tout cas, tu travailles avec ton mari, justement, et votre activité se développe. En fait, combien de temps, finalement, entre le moment où tu as commencé le blog, tu vois, et c'était presque une activité comme ça pour t'occuper, comme tu disais, et puis le moment où c'est devenu quelque chose de plus construit, de plus sérieux aussi, où vous vous êtes dit, OK, c'est bon, maintenant, j'y vais.
Je crois qu'au bout de 2 ans de blog, j'ai quitté.
T'as quand même attendu un petit peu, c'est pas arrivé.
Ouais. Mmh. Et ces premières années, je me rappelle que c'était sans doute les plus fatigantes de notre vie, alors que j'avais fait des concours avant, des Beaux-Arts, où c'était des extrêmement gros dossiers. Mais je me rappelle en fait qu'on avait tous les deux un CDI, qu'on rentrait quand même très tard, on avait un bébé à gérer. Et en fait, à côté de ce job, moi, je proposais de la création de sites web et de blogs. Donc, d'accord. C'est aussi comme ça que je me suis fait connaître par d'autres blogueuses. Donc, le soir, on codait avec mon mari. Je sais pas, des fois, c'était jusqu'à 3h du matin et on retournait au taf le lendemain. Donc, je me rappelle que c'était acharné et il y avait les articles. En plus, à l'époque, c'était un article par jour sur le blog. Donc, à des moments, je me dis même
comment t'as fait, quoi.
Que c'était n'importe quoi. On avait un bébé et je me dis, mais à quel moment et comment... Enfin, je suis contente qu'on l'ait fait et que ça soit plus à refaire et qu'on l'ait fait quand on avait cette énergie-là, parce qu'aujourd'hui, je pense pas que je l'aurais. Et au bout d'un moment, en fait, partir, ça a été une nécessité. Et au bout de 2 ans, mon mari m'a rejoint dans l'aventure. Donc, il a quitté son poste parce qu'on pouvait suffisamment vivre à deux dessus. Mmh. Et parce qu'il enchaînait son métier. Plus le soir, il rentrait, je lui sautais dessus en lui disant, s'il te plaît, aide-moi. Il faut que tu me fasses mes photos pour mon blog. Là, il y a un site, il faut que tu le codes entièrement. Et au bout d'un moment, en fait, c'était n'importe quoi. Donc, on a décidé de tout plaquer et de tenter l'aventure. Mais ça a été quand même relatif. Maintenant, avec du recul, je me rends compte que un an ou deux pour lancer une entreprise, c'est rien.
Et puis en même temps, deux ans, tu vois, tenir avec ce niveau de travail, c'est quand même...
Il faut tenir le bout.
Exactement. Maintenant, en fait, entre l'artiste, on va dire, et l'influenceuse, enfin, clairement, je pense que c'est un peu les deux sujets. Mais du coup, quand on est influenceuse, je trouve que c'est des métiers très différents parce qu'on est très sollicité, on est justement très vu. Et puis juste en permanence, si tu veux, on a des rendez-vous. Et puis, j'imagine que tu as plein de personnes qui t'envoient des messages tout le temps. Et je voulais te demander, parce que comme tu disais que tu étais plutôt quelqu'un qui aime être avec toi-même, avec les gens que tu aimes. Finalement, comment est-ce que tu arrives à gérer ces sollicitations extérieures? Comment est-ce que tu arrives à faire en sorte de à la fois intégrer ta vie d'influenceuse et des collaborations avec des marques qui sont super, enfin tous ces éléments-là, des interviews sur des podcasts, enfin tous ces trucs-là, et en même temps, si tu veux, ton jardin jardin secret et ta vie. Comment est-ce que tu t'es organisée? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, pas forcément sont influenceurs, mais qui aussi souffrent de ne pas savoir dire non, souffrent de ne pas, tu vois, réussir à mettre un stop à des sollicitations. Ça peut être la famille, ça peut être le conjoint, enfin, ça peut être tout. Et du coup, toi qui es particulièrement sollicitée, j'ai vu ton agenda en deux mots et franchement, ça fait flipper. Quel conseil tu pourrais donner à ce sujet?
Alors nous, on a fait le choix un peu égoïste de s'isoler assez rapidement. Donc on est parti au début à Barcelone où on connaissait absolument personne pendant 4 ans. Donc c'est vrai que du coup, on a un peu l'excuse de « désolé, je suis loin ». Et on est rentré en France il y a un an. On est vers Bordeaux, en Aquitaine. Et pareil, on connaît personne, on est un peu tout seul. Et c'est un choix, alors on n'est pas... on n'est pas hyper heureux d'être loin de notre famille, hein, c'est pas ce qu'on ce qu'on dit, mais on est content d'être loin de Paris, d'être loin de certaines sollicitations, parce que des fois ça peut aussi empêcher d'avoir du temps à la création, ça peut aussi t'empêcher d'être créatif tout simplement, et c'est un peu sur la première discussion qu'on a eue sur le podcast. Mais ça, c'était la première décision, c'était de s'isoler et d'être un peu loin. Et au début, on avait un peu peur en se disant « Mais attends, si on s'éloigne, est-ce que les marques, elles vont penser à nous? Est-ce qu'elles vont pas se dire « Elle est gentille, mais elle est à Barcelone. Il y en a d'autres juste à côté. » Enfin, il y a eu une petite peur. Et ensuite, au fil du temps, on s'est rendu compte qu'en fait, être loin, ça faisait un premier filtre. Et que quand la marque venait vers nous, elle savait qu'on était loin, elle sait qu'il y a peut-être un billet d'avion à prendre en charge, elle sait qu'il y a des déplacements compliqués. Mais on se dit, au moins, voilà, ça filtre. Ceux qui viennent vers nous, c'est qu'ils veulent vraiment bosser avec nous.
Ils sont super motivés.
Et pas juste parce qu'on est... elle est là, dans le coin, et c'est cool ce qu'elle fait. On sait qu'il y a une vraie envie. Donc, on se dit, au moins, ça filtre. Et ceux qui n'ont pas envie de faire cet effort, peut-être que ça ne vaut pas le coup, en fait, qu'on s'investisse d'une part ou de l'autre. Donc, ça, c'était le premier choix. Le deuxième choix, c'est d'avoir un agent. Alors, je sais que c'est un truc qui fait peur... à beaucoup de monde, parce que les personnes se disent vite « punaise, elle a un agent, ça va être plus dur, ça va être plus dur de créer une collaboration, ça va être plus dur de l'atteindre, de parler, d'échanger ». Et en fait, pour moi, c'est tout est plus facile, parce que je me soustrais des énergies un peu pas négatives, ça ne l'est pas, mais...
De la négociation, de tous les détails un peu.
Exactement, et tout ce temps que je ne place pas dans ce côté négociation dans lequel je suis mais tellement pas à l'aise, parce que c'est hyper dur de se représenter.
Et puis tu vends ton image, enfin, c'est terrible.
C'est très, très dur. Il faut être hyper à l'aise, il faut être hyper sûr de soi, de ses prix, il faut être... Moi, on me demande de me vendre, je sais pas quoi répondre. Moi, je fais des photos, puis voilà. Enfin, c'est très compliqué comme métier. Et tout ce temps que je passe pas à négocier, en fait, je peux l'attribuer en plus à la création. Et du coup, je le sens bien qu'aujourd'hui, ce que je peux rendre à une marque, j'y ai passé plus de temps parce que j'avais plus de temps pour créer, parce que mon agent s'occupe des choses qui sont trop chronophages et que je ne sais pas gérer. Donc moi, ça a été mes deux solutions. Ça a été de m'éloigner et en même temps de m'entourer. Mais en fait, laissez-moi toute seule faire mes créations et entourez-moi à distance, représentez-moi quand je ne peux pas être à Paris. Et voilà, vraiment m'éloigner, m'entourer. Après, encore une fois, je travaille maintenant avec mon mari à 100% du temps. Donc, on est deux et on travaille avec un autre membre de notre famille.
D'accord.
Donc, on est trois, en fait. Ça nous permet, évidemment, de faire plus de contenu, quoi.
Mais je trouve ça vraiment super que tu parles de ça, parce que souvent, quand on voit un influenceur, on se dit c'est une entreprise, mais qui est liée complètement à la personne.
Ouais.
Et c'est le cas. Mais en fait, toi, ta personne, c'est ce que tu crées. Et je pense que ta valeur et ce que tu apportes, finalement, au monde, c'est beaucoup plus sur la création qu'effectivement, est-ce qu'il faut négocier tel ou tel prix, les billets d'avion, est-ce qu'il faut les prendre, etc. Enfin, qui sont des choses importantes aussi.
Bien sûr,
Mais par contre, qui ne sont pas forcément ton cœur de valeur ajoutée. Et pourtant, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de freelance, beaucoup de personnes qui sont très attachées à ce qu'ils sont en train de faire ont du mal à lâcher ce genre de choses parce qu'il y a une perte de confiance.
C'est très dur. Hein,
toi, tu as eu du mal justement à déléguer cette partie-là?
Ouais, ça a été très dur. Alors, avec mon mari, non, évidemment que non, mais on se connaît depuis, j'ai envie de dire toujours, mais presque. Donc non, ça a pas du tout, ça s'est fait très naturellement, il y a eu aucun souci. Mais un agent, c'est compliqué parce qu'on remet entre ses mains notre image. Voilà, on se dit, il faut pas qu'ils se cassent la figure, il faut qu'ils comprennent bien ce dont j'ai envie. Et moi, je suis très, t'as compris, hein, je suis très dans le contrôle de tout.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, évidemment que les mails, je les lis, je réponds à mon agent avant qu'il fasse la réponse, je valide ses réponses. Enfin,
c'est oui, pas, donc t'es quand même, tu le laisses pas complètement
non,
gérer.
Non, du tout. C'est juste, elle va au rendez-vous à Paris quand je peux pas y aller parce que je suis loin, elle fait les appels téléphoniques. Mmh. Donc, ça a été dur parce que je suis quelqu'un qui a peur de faire confiance aussi. Et en même temps, c'est mon bébé, toute cette entreprise. Mais on en avait besoin. Et on a, nous, d'un côté, l'influence. De l'autre, on a un studio de création. Donc, on propose aussi nos services aux marques.
Ouais.
Donc, à un moment donné, j'avais un peu du mal à jongler entre tout ça et à m'y retrouver entre où doit être Natasha Birds, où doit être Natasha de Studio de Birds et où je suis, moi, la Natasha sans les réseaux sociaux. Ouais. Et du coup, ouais, non, ça a été très dur de déléguer et je suis très contente de l'avoir fait parce que c'est très anxiogène aussi de répondre à des mails et de négocier et qu'on te dise que, je sais pas, que t'as pas fait assez de likes, que t'es trop cher. Moi, des fois, je lis des mails qui me bouleversent parce que je trouve ça dur, parce que j'ai une conscience professionnelle qui je pense assez forte et je veux que tout le monde soit content de mon boulot. Mmh. Donc avoir l'agent qui fait filtre et qui me défend des fois aussi.
Bien sûr, qui fait écran.
Exactement.
C'est hyper, je pense, un super conseil pour toutes les personnes qui sont dans des métiers un peu d'art comme ça et de juste présentation d'eux-mêmes.
Exactement.
Je voulais te poser une autre question parce que tu travailles avec beaucoup de marques et en fait, ce qui est génial, c'est que tu as à la fois la casquette du studio de création pour des marques en marque blanche, mais en même temps, les créations que tu fais dans le cadre de l'influence. Et que ce soit dans le cadre de l'influence ou de la création de contenu, on sait aujourd'hui que les marques sont un petit peu paumées, sincèrement, et très souvent galèrent. Est-ce que tu aurais quelques grands conseils, des erreurs que tu vois fréquemment, je ne sais pas, des marques qui te sollicitent sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais voilà, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelques marques? Messieurs, dames, arrêtez-vous, parce que franchement, ça ne fonctionne pas tant sur la partie influence que aussi sur la partie création de contenu.
Sur la partie influence, je pense que les influenceurs, influenceuses, sont celles qui connaissent le mieux leur communauté et que à un moment donné, on sait que les prix dans l'influence sont quand même assez importants et que pour une marque, c'est quelque chose à dégager, ils ont envie d'avoir un droit de regard, ce qui est normal, ils ont envie de contrôler tout ça, l'argent qu'ils placent. Mais voilà, les influenceuses, elles savent pertinemment ce qu'elles font, elles connaissent très bien leur communauté et je pense que juste des fois leur dire voilà, on a un budget de temps, qu'est-ce que toi tu penses qu'il faudrait faire avec ce budget, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer, serait peut-être plus bénéfique que nous dire nous on veut absolument deux stories comme ça,
avec le texte là,
exactement là. Parce que je pense que ça se ressent en plus dans les communautés. Nous, je sais que dans les collaborations qu'on a, le mot d'ordre qu'on donne, c'est qu'on veut que ça soit créatif. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de placement de produits, où je veux pas faire un simple placement de produits, je veux que derrière il y ait une histoire, je veux qu'on ait réfléchi à un shooting, je veux que... Et des fois, les marques me disent « Ouais, mais attends, nous, on t'en demande pas tant. Hein. Nous, tu nous mets la photo comme ça.
» Tu le portes.
Ouais, c'est parfait, ça va. Ouais. Et il n'y a pas de souci, je vais le faire. Et vous verrez qu'on aura la moitié de moins de commentaires et de retours. Et qu'en plus, moi, je serai pas à l'aise avec ça. Et que si je suis pas à l'aise, ma communauté, pas des idiots. Hein. Ils me connaissent, ils savent ce que je fais, ils vont le voir, en fait. Et quand moi, on me dit « ce que tu as fait, c'est magnifique, franchement, c'est plus qu'une collaboration », je me dis que là, c'est qu'on a rendu un bon boulot. Et c'est pas... En fait, moi, une collaboration, tu sais, je le prends un peu comme les devoirs que j'avais en école d'art, quoi. On me donne une feuille avec la demande et c'est à moi de rendre... le meilleur projet pour répondre à cette demande.
Ouais, t'es responsable, en fait.
C'est un challenge, mais qui me plaît. Moi, je suis trop contente d'aller voir ce que les autres filles ont fait et pas pour dénigrer ou me dire « Ah, elles ont fait ça », mais juste pour dire « Ah, mais elle a fait ça, mais punaise, c'est trop bien, en fait. On a répondu à la demande de manière hyper différente, c'est trop intéressant. » Et c'est ce que je retrouve, enfin, c'est ce qu'on faisait en école d'art et c'est le challenge qui me plaît aujourd'hui quand on accepte une collaboration. Et les marques qui viennent vers moi en me disant... pas ta carte blanche, parce qu'on comprend qu'il y ait des besoins et des demandes, mais qui me font confiance sur ce que je fais. Mais j'ai tellement envie de faire encore plus que ce qu'elles m'ont demandé, plus que quand on me dit « mais non, mais il faut un wording comme ça ou tu vois, là, je sens que c'est trop... » Et contrôler, voilà, je pense que
mais donc concrètement, en fait, c'est ce que l'idéal pour toi, et j'imagine pour beaucoup d'autres personnes dans ce milieu, c'est on te fait un brief au sens où on te dit quel est le produit qu'on veut mettre avant ou le service, quoi. Et puis ensuite, on te dit, ben voilà les choses qui sont importantes pour nous. Je sais pas, tel produit, il a telle fonctionnalité, j'en sais rien. Mais ensuite, c'est toi qui gères et c'est toi qui vois la meilleure manière de le mettre en avant.
Ouais, nous, généralement, on leur explique quand même notre piste créative, histoire qu'on fasse pas tout le boulot pour rien si ça plaît pas aux clients. Et c'est aussi hyper important qu'il y ait un échange et que tout le monde soit à l'aise avec ça. Mais j'ai pas envie qu'on m'impose un shooting avec une couronne de fleurs si moi c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et je pense qu'à des moments, les marques, elles ont envie de très bien encadrer les influenceurs et influenceuses pour les aider à la création, pour leur donner tous les outils en main. Sauf qu'en fait, c'est hyper bridant parce qu'en plus, la couronne de fleurs, ils vont la donner à 5 autres filles à côté. Ça. Donc, je préférerais qu'ils investissent un peu plus en disant, écoute, de quoi t'as besoin pour faire ton shooting? Peut-être qu'on peut privatiser quelque chose, peut-être qu'on peut te louer, je sais pas, une tenue. Et ça, c'est pas quelque chose qui est proposé aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous propose un budget. Après, c'est à nous de prendre des frais de société. Mais je pense que ça serait plus bénéfique, en fait, de se dire, écoute, je te laisse libre. Mais par contre, on en parle ensemble. Et viens, on fait le truc à deux, en fait. Je suis à disposition pour t'aider et pour qu'on fasse le truc la main dans la main, plutôt que dire, voilà le brief et tu fais ça et que l'influenceuse rende un truc... Je trouve que c'est un peu dommage, en fait, et qu'on perd peut-être certains talents, parce qu'il y a énormément de talents dans les influenceurs, mais peut-être que les marques leur font pas assez confiance pour se lâcher. Et j'en parlais avec un ami qui fait de la retouche photo, qui me disait que c'était hyper dur d'expliquer aux marques que lui, c'est son parti pris de faire du photomontage. Voilà, c'est un petit peu dommage et ça serait peut-être la seule chose, moi, qui me gêne aujourd'hui.
Et niveau création de contenu, tu aurais des conseils à donner à des auditeurs qui se lancent, qui veulent créer plus de contenu, justement, faire beaucoup de volume, garder sa patte personnelle. Enfin, je sais que c'est pas évident, mais tu as quand même une expérience assez dingue en la matière. Ça fait 8 ans que tu crées du contenu et que tu en crées beaucoup. Si quelqu'un a un objectif, par exemple, de réussir justement à un peu émerger sur les réseaux sociaux, quels seraient pour toi quelques grands conseils que tu pourrais dire ou quelques erreurs, tu vois, que tu vois fréquemment?
Après, sur Insta, je pense que malheureusement, il faut être très présent si on veut réussir. Je pense que la photo par jour, c'est un peu la norme et que c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à se faire connaître et que c'est compliqué en postant qu'une photo toutes les 2 semaines. Il y a un peu ce côté « je suis là » sur Instagram. Et ça peut paraître un peu au début « comment je vais réussir à produire un contenu ?» Nous, ça nous arrive assez souvent, en fait, d'avoir des périodes de rush où on va enchaîner les shootings et on va se les garder un peu sous le coude. Et puis, on sait que voilà, on a 3 semaines. Moi, mon feed, je sais que pour les 2 prochaines semaines, il est fait.
Prêt, quoi.
Et du coup, ça me permet d'avoir une longueur d'avance et de produire pour ce qui arrivera après. Et je pense que c'est un peu la clé. Ça sert à rien d'arriver avec son compte Insta qui est vide et de se dire, allez, à partir d'aujourd'hui, en tant que marque, je poste une... C'est pas possible parce que ça va finir en photo un peu catastrophe. Et je pense qu'il vaut mieux préparer pendant 2-3 mois son arrivée, se dire, allez, là, j'ai un bon mois d'avance et comme ça, je peux montrer ma présence et je profite de ce mois pour produire pour le mois prochain, plutôt que d'arriver en se disant, allez, je me jette à l'eau et on verra. Et non, parce que ça va être... on va se dire que c'est surhumain de faire tout ça et ça peut avoir un côté un peu... Tu vois, ça te descend un petit peu dans ton énergie. Donc, nous, je sais qu'on a un espèce de roulement comme ça et je pense que c'est un peu la bonne chose.
Je voulais te demander justement comment vous organisiez. En fait, tu crées vraiment des contenus, tu vois, par exemple, pendant 2 jours, vous allez faire énormément de photos et ensuite, après, tu vas pouvoir les partager au fur et à mesure, tu vois, au fil de l'eau ou ça se fait un peu plus au compte-goutte en fonction des jours, de ton inspiration. Enfin, c'est assez structuré. Tu as l'air d'être quelqu'un finalement qui est pas mal dans le contrôle, comme tu l'as dit toi-même.
Ouais,
et donc, est-ce que quand on a autant de contenu à créer, est-ce qu'on est un peu obligé finalement de le faire tu vois, sur un shoot, ok, c'est bon, je fais au moins 10 photos minimum parce que sinon je vais pas y arriver. Ou est-ce que tu arrives quand même à le faire de manière plus spontanée?
Non, non. Le seul truc qu'on a de tenue, c'est que tous les mardis, je travaille avec une amie qui est maquilleuse et qui est extrêmement douée.
J'avoue que tes photos sont dingues avec le maquillage.
Ouais, elle est incroyable. Et du coup, ça, c'est notre rendez-vous. On sait que tous les mardis, Audrey vient me maquiller et qu'il y a un shooting. Moi, c'est des shootings qui me plaisent à faire. Des fois, on l'associe avec une marque. D'autres fois, c'est juste pour nous. Ça dépend vraiment de... Mais quoi qu'il en soit, tous les mardis, il y a ce maquillage. Donc, c'est la seule chose qu'on tient vraiment dans notre planning. Ensuite, on a la chance de quand même beaucoup voyager. Donc, c'est vrai qu'en voyage...
Ouais, t'as plein d'opportunités, quoi.
Ouais, c'est même pas je vais voyager donc enfin j'y vais pour faire les photos, c'est pas dans ce sens-là, je vais pas prévoir mes tenues par rapport au lieu ou enfin je suis bien loin de tout ça, mais c'est juste que moi comme mon mari en fait on est photographe et on a ce regard-là de ah ça c'est beau et ça c'est trop beau et ça c'est trop beau et du coup moi je sais pas voyager sans faire de photos, mais même si je les montre pas c'est juste mais c'est trop beau, je suis obligée de faire une photo. Donc on revient de voyage généralement avec 3 mois de feed qui sont faits. Après il y a des choses qui viennent, tu vois, tout à l'heure en arrivant pour chez toi, on a vu une devanture avec un miroir hyper beau d'une boulangerie, on a fait une photo et je pense qu'elle sera dans la semaine sur le feed, j'ai tout déplacé, on le fait très très régulièrement. Mais non, on n'est pas tenu, on laisse les choses un peu venir naturellement. On n'a pas de journée shooting, c'est quelque chose qu'on faisait quand on était à Paris. Tu sais, d'avoir les journées, on fait des looks ouais. Toute la journée, on shoot sur Paris, c'est un truc qu'on fait plus du tout. On se balade et on a toujours notre appareil photo avec nous. Ça, c'est une déformation un peu professionnelle.
Je vois, il est sur la table,
on n'a pas fait aucune photo avec, hein, mais il est là et on se dit, bah, s'il y a un truc trop beau, on sait qu'on va avoir envie de faire la photo. Et, mais en fait, le fait qu'on ait cette avance de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois sur le feed, on n'est pas pressé de faire une photo et on fera pas une photo pour faire une photo et on cherchera pas la photo. J'irai pas dans un restaurant 5 étoiles avec une robe pour faire la photo. C'est pas quelque chose qui m'attire et c'est pas le genre de photo que j'aime en plus. Mais ça nous permet d'avoir la liberté de si on fait pas de photo pendant une semaine, c'est pas grave.
Finalement, cette organisation te permet d'avoir de la
exactement,
liberté.
Exactement, exactement.
Natacha, pour terminer, je pose des questions qui sont des questions... un peu personnel sur la fin du podcast, j'appelle ça le crible du gratin, notamment une question que je voulais te poser, c'est, on en a parlé un peu en filigrane, mais est-ce qu'il y a eu un moment un peu difficile, un moment de doute, un moment aujourd'hui voilà, dont tu peux te rappeler qui a été un moment peut-être même d'échec et dont tu pourrais me parler, et qu'est-ce qui t'a appris dans ta vie? Ça peut être d'ailleurs au niveau d'Insta, au niveau du blog, mais ça peut être autre chose aussi, hein.
Je pense que c'est quand j'ai pas eu mon BTS. Je pense que ça a été... En fait, tous mes échecs sont très liés à l'école. J'ai pas eu le parcours scolaire que j'aurais rêvé d'avoir. Ça a été très dur. Moi, j'ai fait une école d'art juste après le collège parce que j'étais très nulle partout, globalement, sauf en art plastique. Et je sentais de façon que c'était ce que je voulais faire. Donc, je suis rentrée dans une école d'art. Et ça a été 4 années incroyables. Et passé ces 4 années, ça a été très dur parce que j'étais prise dans aucune école. Je rêvais de faire les Beaux-Arts. J'ai été recalée de partout, dans aucune grande école parisienne. Donc ça a été des échecs qui ont été durs, en fait, de me dire un peu « personne veut de moi ». Ensuite, j'ai loupé le BTS. Donc là, c'était un deuxième coup de massue en me disant, en fait... mais moi, il y a que l'art, en fait. Mais qu'est-ce que je vais faire si eux veulent pas de moi? Il y a aucun autre métier au monde, en fait, qui me va à part ça. Donc ça a été un peu dur. Et c'est vrai que le blog et tout ça, ça m'a permis d'accéder à un poste aujourd'hui que personne n'a voulu me donner quelque part, tu vois.
Et tu t'es créé ton job toi-même.
Ouais, quoi. Aujourd'hui, on est directeur artistique de notre agence de créa et on bosse avec des super marques pour leur faire leur spot. Et même quand j'étais en agence, des entretiens dans lesquelles je me suis fait recaler parce que mon univers était trop girly, parce que il y en a eu énormément. Le mot ce que tu fais, c'est voilà, c'est trop fifi, un peu dénigrant, j'en ai eu beaucoup. Et aujourd'hui, on vient me chercher pour ça, parce que ce qu'on fait, c'est doux, c'est poétique. Donc c'est une revanche un peu pourrie, mais c'est la
non,
mienne.
Non, pas du tout, mais tu trouves que ça te permet aussi de te dire que finalement, t'as bien fait de pas faire de compromis et de rester toi-même,
ouais.
Parce que t'aurais pu, tu vois, dire « Ok, je rentre dans le rang ».
Bien sûr. Non, je suis hyper contente de ça et je me dis que quelque part, cet échec, il m'a peut-être permis d'avoir mon agence. Et peut-être que si on m'avait pris comme j'étais, aujourd'hui, je me plairais moins. Mmh. Donc c'est... Voilà, c'est un échec qui me fait encore du mal. J'ai pas vécu le truc que j'aurais voulu vivre, mais aujourd'hui je vis ce que j'aurais rêvé de vivre. Donc c'est très chouette. Mais je pense que c'est pour moi les seuls échecs
importants. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes dans ta vie, dans ta carrière, quelque chose où parfois tu dis ah là là, ça j'aurais dû le faire, ça j'aurais peut-être ne dû pas le faire, au contraire.
Non, dans ma carrière, sincèrement, j'ai pas de regrets. Je suis partie au bon moment des postes qu'il fallait que je quitte. J'ai eu un patron qui était pas très gentil avec moi. C'est un peu misogyne, pas cool avec les femmes, qui s'est permis de me dire des choses très dures. J'ai peut-être juste ce regret, en fait, de pas avoir été à l'époque, j'avais 17-18 ans, et je pense que notre parole, elle était pas aussi libérée qu'aujourd'hui, et du coup, on osait moins l'ouvrir et lui dire, écoute, je m'habille comme je veux, et tu vas te chercher ton McDo tout seul. Mais je regrette un peu, peut-être, de pas avoir eu le courage et l'audace de lui dire ce que je pense. Et c'est quelqu'un dont je parle très souvent parce qu'il m'a un peu un goût amer de tout ça. Mais c'est peut-être voilà, le seul petit regret.
En tout cas,
regret.
Le message est passé aux jeunes filles qui nous écoutent. Il faut ouvrir sa bouche et dire
exactement
ce qu'on pense. Un conseil ou une maxime que tu aimerais nous partager, des mots de sagesse peut-être, enfin quelque chose, une réflexion sur la vie que tu te fais régulièrement.
Pour moi, la seule réflexion, c'est vraiment de pas s'épuiser dans un rôle qui est pas le nôtre. Et je sais que c'est quelque chose qui est pas du tout évident, qu'on a tendance à porter des choses qui sont pas pour nous, et parce que tout le monde nous pousse à le porter, et que c'est comme ça qu'on se perd, et que des fois, faut savoir se dire. Ok, cette collab, elle est super chez elle, mais elle m'aurait pas été. Ok, cette carrière, elle est magnifique chez l'autre personne, mais moi, j'aurais pas été heureuse. Et que s'épuiser dans un rôle juste pour rentrer dans ou avoir des waouh des autres, c'est pas la bonne solution et qu'il vaut mieux avoir son propre rôle, même si il fait rêver personne. Je pense que c'est le plus important et c'est ce qu'on s'efforce nous à se répéter quand il y a des choses où on sent que c'est pas nous, de se dire ça sert à rien, là tu t'épuises dans un rôle qui est pas le tien et voilà, c'est pas la bonne chose.
Trop bien. Dernière question, je termine toujours par demander à mes invités s'il y a un livre ou des livres qui les ont marqués et pourquoi. Alors tu m'as parlé de cette fameuse encyclopédie.
Oui.
Est-ce qu'il y aurait soit ça, tu peux nous en reparler, ou un autre livre peut-être, ça peut être un livre d'art d'ailleurs.
Ouais, il y a beaucoup de livres qui me chamboulent. Il y a l'œuvre d'Émile Zola, qui est un livre que je relis régulièrement et qui me touche énormément. Et les poèmes de Prévert, c'est un truc dont je parle très souvent, mais c'est
magnifique.
C'est moi, c'est à chaque fois des choses qui me chamboulent, mais je suis très dans les écrits et je pense que Zola, l'œuvre me parle beaucoup. Il y a beaucoup de textes de rap aussi qui nous parlent beaucoup, qui sont des genres de poésie. On est très poésie et on le retrouve un peu dans certains artistes de rap français. Mais j'ai beaucoup de livres, ça serait trop dur.
Mais l'œuvre de Zola, je l'ai pas lu depuis très longtemps, je l'avais lu il y a longtemps, ça me donne envie.
Ouais, il y avait l'écume des jours aussi qui m'avait...
Et dans les poèmes de Prévert, t'en aurais un en particulier qui te vient en tête ?
Non, alors moi j'ai le recueil Parole, appartenait à mon grand-père, qui était poète aussi. Du coup, c'est celui-ci que je relis assez régulièrement. Mais c'est vrai que c'est un poète qui me touche énormément dans ses mots.
Natacha, merci pour tout ton temps.
Merci à toi.
Si jamais on veut te retrouver, donc évidemment, on va sur ton blog, sur YouTube, sur Instagram. Ouais. Si jamais on est une marque et qu'on veut vous contacter aussi dans le cadre du studio, ça se fait en général par quel biais ? C'est plutôt sur Insta aussi que ça se passe ?
Ouais, ou par mail assez par souvent. Mail. Le blog, c'est plus quelque chose qu'on actualise trop.
Ouais.
On est surtout sur Insta. Mais ouais, en privé sur Insta, avec plaisir.
Génial. Bah, merci à toi.
Merci à toi.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram, qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc, sous le pseudo Pauline Léniaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute, et avoir des notes, en fait, permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, bah, c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand, grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.